9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus sur Europe 1, on est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
On attend un invité pour tout vous dire, mais heureusement nos autres amis sont là par téléphone pour nous parler des hôpitaux, l'avenir de l'hôpital, le visage de l'hôpital de demain, les hôpitaux de proximité. On en parlait hier et c'était au cœur du projet de loi Ma Santé 2022, 5 à 600 hôpitaux labellisés prochainement tels que les a annoncé la ministre de la Santé. Alors qu'est-ce que c'est? On va voir que l'idée est de rapprocher la population des hôpitaux avec des centres d'abord plus accessible et surtout de faire face à l'urgence du moment. Aujourd'hui, nous avons des médecins, mais dans les 10 ans qui viennent, nous n'en aurons plus assez. Il va falloir faire face à cette pénurie. On va donner la parole à des médecins, à des élus locaux, à des spécialistes, notamment de l'hospitalier et à des patients. Évidemment aussi, vous avez la parole au standard, Julie, dès maintenant.
Le 3921, vous composez le numéro, on vous rappelle, et vous avez aussi les réseaux sociaux. Et pour cela, le hashtag Europe 1.
Et puis ce 14 février nous donne l'occasion d'une page d'histoire et d'amour. On parlera notamment de Victor Hugo et de Juliette Drouet, des coups de foudre les plus célèbres et de ce siècle où la correspondance a laissé place au SMS. S'aimer hier et aujourd'hui, c'est tout un programme et c'est le programme du jour de ce 14 février.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et on va dépasser le jargon administratif, si vous voulez bien, et médical, pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans cette fameuse carte hospitalière. La population vieillit, la demande de santé est grande, on le sait bien, et on n'a plus assez de médecins pour faire face. Comment gérer le problème et que propose le gouvernement avec le plan santé? Nous sommes avec Frédéric Valtoux, bonjour.
Bonjour.
Président de la Fédération hospitalière de France, vous qui êtes par ailleurs maire de Fontainebleau, et merci de venir de Fontainebleau ce matin. Olivier Véran qui est avec nous en ligne, député La République En Marche de l'Isère. Bonjour monsieur Véran.
Bonjour.
Vous qui êtes neurologue et rapporteur général de la Commission des affaires sociales. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui vraiment, messieurs, en France pour faire face à ce problème? Une pénurie de médecins annoncée dans les 10 ans qui viennent. Et est-ce que la solution, en partie, est dans ce plan santé 2022, Frédéric Valtoux?
Vous l'avez dit, ce qui manque principalement, c'est effectivement des forces médicales. Et donc on est dans une période où il faut, au-delà des contraintes budgétaires dont on va parler, au-delà des contraintes d'organisation aussi, d'adaptation de notre système de santé à l'évolution de pathologies nouvelles, aux nouvelles technologies, etc. On est dans une période où il faut faire en sorte que les forces médicales travaillent ensemble, plus ensemble, et de sortir d'un système qui historiquement était très en tuyau d'orgue, très avec des murs entre les types de médecins selon leur statut,
médecine de ville, médecine
libérale, médecine hospitalière, etc. Pour les faire arriver à travailler plus ensemble. Mais au-delà des médecins, c'est tous les professionnels de santé. Donc c'est aussi le débat de faire peut-être de donner plus de responsabilités aux infirmières, à d'autres professionnels de santé.
Aussi
donc arriver à mutualiser les forces pour faire face effectivement à ce grand défi, cette grande réalité qu'est la pénurie des médecins.
Et qui nous concerne tous. Olivier Véran, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas encore jusqu'à présent, jusqu'en 2019, réfléchi, en tout cas en profondeur, à une meilleure articulation entre ces différentes médecines, en ville, à la campagne, dans les territoires, et où l'on parle aujourd'hui beaucoup de déserts médicaux précisément.
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement ce que vous dites, c'est qu'on a raté le coche de grandes réformes qui aurait dû permettre des transferts de compétences, des délégations de tâches, ce qu'on appelle des pratiques avancées aujourd'hui, c'est-à-dire de permettre de déléguer certains actes professionnels à d'autres professionnels, par exemple entre médecins et infirmiers, etc. etc. Et ça, c'était mis en place extrêmement timidement, extrêmement récemment, alors que je pense que les pouvoirs publics avaient postulé il y a 20 ans que ça irait plus vite. Mais il y a un peu de résistance dans le milieu et on peut le comprendre. Deuxièmement, ce sont des très mauvaises décisions qui ont été prises en fait. Parce que le numerus clausus qui bloque le nombre de jeunes étudiants qui peuvent faire médecine en France, il a été installé au début des années 1960.
Au moment où il y avait une pléthore de médecins.
Voilà, on parlait de la pléthore. Ouais. Moi, je me suis amusé à regarder sur Google. Le mot pléthore, il arrivait des milliers de fois sur Google, encore à la fin des années 90. La première occurrence sur Google, c'est-à-dire la première fois que le mot désert médical apparaît sur Google, c'était en 2001. Parce qu'on allait manquer d'ophtalmo au centre de Paris au mois d'août. Et donc, en fait, les pouvoirs publics n'ont pas anticipé le fait qu'à force de brider, de diminuer, de réduire le nombre de médecins en formation, eh bien, ça allait conduire à une catastrophe. Un, la population vieillit. Deux, la population a augmenté. Trois, le progrès médical fait que les consultations sont plus longues et plus techniques. Et quatre, les modes d'organisation et de travail des médecins ont changé. le médecin de famille corvéable à merci qui donne son téléphone à tous ses patients et qui va se déplacer la nuit dans le village. Ce modèle-là, il a laissé place à un modèle plus moderne et on peut encore une fois parfaitement le comprendre. Mais juste pour que vous ayez une idée, dans les années 60, au début des années 60, avant le numerus clausus, on formait plus de 10 000 médecins par an.
Oui.
10 000 médecins par
oui.
an. Le premier numerus clausus, je crois qu'il était à 8 000 ou 8 500 médecins formés par an. Moi, j'ai passé le concours en 1998, quand on parlait encore de pléthore. Mmh. À cette époque, vous saviez combien on était formés par an ?
Dites.
3 500.
Oh là là, on a déjà divisé par 3. Hein, en
et cette année, cette année, alors qu'on a fortement augmenté le numerus clausus depuis bientôt 10 ans, on était encore seulement 8 000 à être formés. Donc il ne faut pas s'étonner qu'on ait une pénurie. La pénurie, elle est globale.
Sauf que la pénurie, donc, on ne l'a pas encore. C'est bien ça qui est compliqué. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de médecins, Frédéric Valtoux.
On l'a déjà, la pénurie, mais on sait que ça va être pire.
C'est ça.
Comme le décrit très bien Olivier Véran.
On n'est pas dans le pire.
On est dans un exercice où c'est hyper... Enfin, prévisionnel, on le sait d'avance,
ouais.
On sait quelle va être la réalité demain. Et donc, j'allais dire, le pire est à venir,
c'est
malheureusement.
Ça. Et donc,
c'est
comment,
déjà compliqué,
comment on se
tendu.
Prépare Comment on se prépare, messieurs? C'est ce que vous allez nous dire aussi, avec ce qui a été proposé, notamment hier en Conseil des ministres, ce fameux plan Ma Santé 2022. Alors, ça veut dire quoi, Ma Santé 2022? Ça veut dire qu'on réfléchit à un plan triennal de 2019-2022, ou tout commence en 2022, d'abord, Olivier Véran?
Ça veut dire qu'on se donne 3 ans pour appliquer cette réforme.
D'accord.
Pleinement, entièrement, et pour qu'elle porte ses premiers fruits. Et Frédéric Valtoux a raison de dire que de toute façon, on va passer une période très difficile en termes de démographie médicale. Et je dirais, il faut être honnête, hein, il n'y a pas de martingale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution toute faite qui permettrait demain de résorber les déserts.
Clairement.
Qui vont nécessairement se creuser pendant 10 ans. Donc, c'est pour ça qu'on met en place un certain nombre de solutions pour faire gagner du temps aux médecins. Des solutions très pratiques.
Oui.
Par exemple, les assistants médicaux. 2000 assistants médicaux qui, sur l'ensemble du territoire, vont permettre de faire des petits actes, justement, qui vont libérer du temps aux médecins, de manière à ce qu'ils puissent voir autant de malades que ce qu'ils voyaient jusqu'à présent, mais en étant moins débordés, ou de lui permettre de voir plus de malades s'il le peut.
Et les assistants médicaux,
village de France,
ils existent déjà.
Il y a des médecins qui passent 60-70 consultations par jour, qui débordent, qui saturent, qui n'y arrivent plus.
Ils existent déjà, ces assistants? Oui.
Ben non, nous les créons par la loi, justement.
D'accord.
Par la loi.
Donc il faudra attendre.
Dans plein de pays dans le monde.
Oui. Oui, c'est qui, Frédéric Valtoux? C'est ce que vous demandez?
Non, la question, c'est ces assistants médicaux, en fait, ce sont des médecins ou ce sont des... Non, ce sont des...
Des infirmiers, des professionnels de santé?
Ce sera essentiellement des professions paramédicales type soignants, qui seront capables de prendre la tension, de prendre le poids, de faire un entretien d'antécédents, enfin de faire gagner du temps, finalement.
C'est
ça. De faire en sorte que le médecin puisse utiliser le plus important de son temps en consultation pour faire la consultation médicale. Et ça, ce sera réservé aux médecins qui travaillent de façon regroupée, c'est-à-dire les médecins qui ne sont pas isolés. Un assistant médical n'a de sens que si il travaille en lien avec au moins 3 ou 4 médecins.
Mmh. Et vous, alors, vous pensez aussi à des hôpitaux de proximité avec un certain nombre de structures existantes qui pourraient être, dans les mois et les années qui viennent, labellisées hôpital de proximité. Vous allez nous dire, parce que là, ça touche concrètement à notre quotidien, à nos territoires aussi, qui seront les critères nécessaires pour être retenus et labellisés hôpital de proximité. On fait le tour de ce sujet sur la santé des mois et des années à venir, et notamment à l'hôpital, avec Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, le député et neurologue Olivier Véran. Et dans quelques instants, je recevrai le maire de Joigny dans l'Yonne, qui candidate pour que le centre hospitalier de sa ville devienne justement un hôpital de proximité. Il nous parlera de la déliquescence des services publics, notamment dans sa ville de Bourgogne. A tout de suite avec Julie.
La ministre de la Santé présentait hier sa réforme qui prévoit de supprimer le numerus clausus pour les étudiants en médecine et de développer davantage les hôpitaux de proximité afin de mieux rapprocher la population et l'hôpital. Nous en parlons ensemble jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
Afin aussi de répondre à l'offre croissante, évidemment, de santé face à une pénurie de médecins qui s'annonce. Nous sommes avec Frédéric Valtoux pour la Fédération hospitalière de France, avec Olivier Véran, neurologue et rapporteur général de la Commission des affaires sociales, car vous êtes député La République En Marche de l'Isère. Dans un horizon proche, et on va revenir sur une mesure concrète que la ministre soutient avec le gouvernement, vous souhaitez labelliser des hôpitaux de proximité, 5 à 600 supplémentaires. C'est un premier niveau de prise en charge que vous voulez mettre en avant pour dans les territoires, pour redonner confiance aussi dans les structures de proximité, justement. À quoi ils ressemblent, ceux déjà existants, et à quoi ressembleraient ceux que vous souhaitez labelliser, Olivier Véran?
Aujourd'hui, vous avez des hôpitaux de proximité qui sont labellisés, qui sont en général des petits hôpitaux, souvent des anciens hôpitaux généraux, ce qu'on appelait des hôpitaux généraux, qui avaient une activité assez mixte de médecine, et qui ont été reconvertis progressivement dans les territoires ruraux plutôt reculés, ou ce qu'on appelle des soins de suite et de réadaptation, c'est-à-dire de la rééducation, mais destinée généralement aux personnes très âgées, voire carrément en EHPAD, c'est-à-dire en établissement médicalisé pour personnes âgées.
D'accord.
Je crois que la moyenne d'âge aujourd'hui des patients qui vont dans ces hôpitaux de proximité est supérieure à 80 ans, elle doit même être autour de 84 ans. Or, ces hôpitaux, ils ont le mérite d'exister, ils ont le mérite d'être situés dans des territoires où il n'y a plus vraiment de services publics et privés, où l'accès aux soins est extrêmement précaire, et où les gens nous disent au quotidien, ben, on aimerait bien quand même retrouver un peu de service hospitalier et ne pas être obligé de faire 80 km dès qu'on a un problème de santé pour lequel il faut passer par l'hôpital. Et donc on va restaurer une forme de plateau technique dans ces établissements, de la biologie médicale, de la radiologie, renforcer la présence médicale et paramédicale pour recréer en proximité, à proximité des gens dans ces territoires, un service. Alors, ce ne sera pas les services de pointe qui nécessitent des hyperspécialisations, évidemment, mais ce sera quand même des plateaux techniques qui permettront aussi de servir d'appui aux médecins libéraux.
D'accord.
Qui souvent se sentent bien seuls dans ces territoires, parce que dès qu'ils ont des examens à faire à leurs malades, ils sont obligés de les envoyer à 50 km de là.
Alors, à voir très concrètement comment ça peut s'appliquer, notamment à Joigny. Juste une réaction, Frédéric Valtou, sur ces hôpitaux de proximité dont vous demandez à voir justement un peu plus les contours.
L'écriture, puisque c'est renvoyé une ordonnance, donc l'écriture de l'ordonnance qui va définir ce qu'est un hôpital de proximité, ce qui va définir les services, le service minimum, j'allais dire, qu'accueillera chaque hôpital de proximité, va être important. Et c'est pour ça qu'avec les associations d'élus, elles sont aussi vigilantes à ça, parce que les élus locaux sont en première ligne lorsqu'ils voient se déliter l'offre de soins dans les territoires. Et donc là, il y a une promesse de reconstruire autour de ces 500 à 600 hôpitaux de proximité, une présence médicale dont tout le monde a bien compris, bien sûr, qu'il n'y aurait pas de l'hyperspécialisation dans chacun de ces établissements, mais qu'au moins, ce serait un premier niveau, un niveau de premier recours pour une prise en charge, effectivement, en proximité. Lié, bien sûr, après, à des hôpitaux généraux plus importants, voire au CHU, si besoin. Donc, l'écriture des choses, elle est importante. Et si, effectivement, c'est pour remettre des forces médicales, si c'est pour, effectivement, remettre des plateaux de radiologie, comme Olivier Véran vient de le dire, ou des laboratoires de biologie, si aussi c'est pour permettre de mieux faire travailler, on en parlait en introduction, les médecins de ville, le médecin généraliste, deux, trois qui restent, aux alentours, qui puissent venir faire des journées ou des demi-journées à l'hôpital, suivre leurs patients, etc. Et donc, si c'est des endroits où on arrive à faire travailler ensemble les médecins, les professionnels de santé, là, je pense qu'on aura réussi le pari. Donc, il faut faire le pari de la réussite. Il faut qu'on y travaille tous. Mais effectivement, c'est un aspect important de ce plan, de reconstruire une offre médicale en proximité. On a beaucoup focalisé dans les dizaines d'années précédentes sur, effectivement, l'excellence qui était autour des CHU, des plateaux intégrés, etc., l'excellence de la médecine française, la recherche, l'enseignement, etc. On a parfois un peu oublié l'objectif de proximité et la nécessité
absolument
de la proximité.
Alors très concrètement, qu'est-ce que ça donne? Par exemple, dans une commune de 10 000 habitants, nous sommes dans Lyon, dans la région Bourgogne, à Joigny, avec le maire qui est avec nous en ligne. Bonjour Bernard Morenne.
Bonjour.
Je vous remercie de participer à cet échange sur l'hôpital de demain et sur ces fameux hôpitaux de proximité que la loi soutient. Décrivez-nous d'abord la situation de votre ville, parce que Joigny, c'est une ville d'art et d'histoire qui est belle, qui est charmante, mais qui fait partie, hélas, des villes aujourd'hui les plus pauvres, entre guillemets, de France, parce que vous avez subi en 20 ans une série de coups durs, tout simplement.
Oui. D'abord, merci d'inviter le maire de la plus belle ville du monde. Il ne mérite pas qui va le dire.
Juste devant Fontainebleau.
Devant Fontainebleau, dit Frédéric Valtou. C'est bien, soyez chaud un peu.
Égalité. Oui, mais nous, on a des vignes. À Fontainebleau...
Elles sont pas mal. Hein.
Plus sérieusement, effectivement, Joigny a été une ville mise en difficulté avec la réforme de l'État. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle carte de réforme, la carte hospitalière, notre hôpital a perdu sa maternité et sa chirurgie. Après la carte judiciaire, on a perdu le tribunal de commerce et le tribunal d'instance. Et puis la cerise sur le gâteau, ça a été le départ de l'armée, la fermeture de la caserne. Bon, là, on avait un genou à terre. Et puis on s'est relevé les manches et puis on s'est battu comme des fous. Et voilà, les choses se stabilisent. On aura mis 10 ans. Et je dois dire que ce que j'entends depuis ce matin sur ce nouveau projet de loi me va bien, me rassure, parce qu'on va pouvoir se dire qu'enfin un service public aussi important qu'un hôpital dans une ville de 10 000 habitants va être quelque part préservé. On va lui donner un label et qu'on va pouvoir travailler sereinement.
Parce que Bernard Morel, il faut le dire, il vous reste un centre hospitalier, un hôpital à Joigny, un centre hospitalier, je ne sais pas.
Un bel hôpital, oui, avec un pôle médecine, un pôle EHPAD, c'est le plus gros employeur de la ville.
Voilà,
c'est 465, presque 500 emplois, ouais, avec les emplois. Moi je pense que l'affaire est quand même bien partie, puisqu'on répond aux différents critères qui ont été donnés par la ministre Buzyn.
L'affaire est bien partie pour avoir ce label, hôpital de proximité, que vous réclamez.
On répond aux critères, ou au moins aux trois critères. On a un service de médecine générale, on a un service de gériatrie, on a un service de réadaptation, en l'occurrence réadaptation cardiaque, mais on a aussi des urgences qui, en ce moment, en cette période de grippe, déborde. Enfin, hier à 23h30, j'avais un petit message en disant c'est encore une heure d'attente aux urgences avec tout cet épisode grippal. On a aussi une équipe mobile de gériatrie, on a l'imagerie médicale, on a la biologie. Voilà.
Vous avez une maternité ou pas? Ils ont fermé.
La maternité a fermé. Il y a 15-20 ans. Ouais.
Et ça, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Pour vous, c'est.
Non, mais.
C'est plus un combat.
De maternité. Voilà, plus de maternité, plus de chirurgie. Moi, on ne va pas faire des combats d'arrière-garde, on ne les aura pas.
Ouais.
Mais ce qu'il faut arriver sur des hôpitaux comme nous, c'est de conserver la médecine générale, et puis faire des choses que les autres ne font pas.
Et Bernard Morel, pour être clair, Joigny, c'est à 30 km d'Auxerre, à 30 km de Sens. Voilà, pour que tu situes.
Et à 1h15 de Paris.
Absolument, ça c'est pour engager les gens à venir chez vous, vous avez tout à fait raison. Mais quand je parlais de Sens et d'Auxerre, Bernard Morel, quand je parlais de Sens et d'Auxerre, c'est que vous souhaitez justement un label hôpital de proximité pour que les patients ne prennent plus la voiture à une demi-heure et se rentrent dans les hôpitaux de ces deux villes citées. Justement, vous souhaitez être plus opérant.
Exactement. Moi, l'hôpital de Sens, c'était quasiment 4 heures d'attente avec la grippe en ce moment, ces derniers jours. Bon, à Joigny, je me dis, c'est que 2 heures. Et on a deux médecins plus un interne à Joigny pour s'occuper de tous ces gens qui sont dans un état grippal. Et puis à Sens, gros hôpital, 1200 ou 1300 agents, enfin du médecin au balayeur, comme on dit, ils n'étaient que deux médecins aussi. Donc je veux dire, c'est le small is beautiful.
Frédéric Valtou veut réagir à ce que vous dites, Bernard Morel.
Oui, alors d'abord, je voudrais saluer effectivement la bonne compréhension par Bernard Morel, effectivement, des enjeux qui sont aussi ceux qui sont attachés au futur statut de l'hôpital de proximité. L'idée, c'est vraiment de veiller tous ensemble, et je pense que ce n'est pas du tout l'intention du gouvernement, mais là aussi, il faut être malgré tout vigilant jusqu'au bout, à ce qu'on ne crée pas des hôpitaux de second rang, c'est-à-dire que vraiment le niveau de mission de service public soit assuré de belle manière dans ces établissements. Et je voudrais simplement ajouter aussi, c'est qu'il faut que ces hôpitaux soient aussi le lieu où il puisse y avoir des consultations avancées. Par exemple, l'hôpital d'Auxerre, l'hôpital de Sens, dans l'exemple de Joigny, doit pouvoir de temps en temps envoyer des médecins, des spécialistes, faire des consultations en proximité, de manière aussi à rapprocher, et la population comprend mieux la disparition d'une maternité ou d'un bloc, si effectivement il y a des services médicaux nouveaux, consultations en pédiatrie, en urologie, enfin bref, qui viennent renforcer aussi l'attractivité de cet établissement.
Bernard Morel, je vous fais réagir juste après la pause, Bernard Morel. Vous m'entendez? Juste après la pause, ne bougez pas, et on retrouve Olivier Véran, Frédéric Valtou, on fait le tour de la question sur ces hôpitaux de proximité, comment rapprocher la population, les patients de leurs hôpitaux, notamment au cœur du projet de loi santé.
Le tour de la question sur les hôpitaux de proximité, comment l'hôpital va se réinventer, Wendy Bouchard.
Et à quoi ressemblera la nouvelle carte de médecine? Finalement, on réagira sur les assistants médicaux. Maïté nous appelle de Chartres, elle est infirmière et elle veut donner son avis sur le sujet, sur le numerus clausus pour répondre à la pénurie de médecins, mais on a 10 ans en tout cas de difficultés à tenir. C'est Marie qui veut nous en parler. Avec Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère et neurologue, on en parle de ce projet de loi santé 2022. Frédéric Valtou, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France, est avec nous en studio. Et nous sommes toujours en ligne avec le maire de Joigny, cette belle ville de Lyon, Bernard Morel. Je voudrais que vous réagissiez à cet hôpital de proximité dont vous demandez le label. Vous répondez aux critères aujourd'hui, vous l'avez bien dit. Frédéric Valtou, mettez en garde, il ne faut pas que ce soit des sous-hôpitaux. Mais en effet, vous pourriez faire venir les expertises conjointes des villes proches, pour créer un vrai pôle aussi d'attraction de santé.
Mais on a 8 spécialistes qui viennent 2-3 fois par par mois à Joigny sur des consultations avancées. Mmh. Donc, on a cet outil-là qui est un bel outil qui, effectivement, évite aux personnes, aux patients d'aller soit à Sens, soit au CER. Donc voilà, on a mis ça en place. La petite particularité aussi, j'aime bien défendre cette idée, parce que on a été assez novateur en tous les cas en Bourgogne. On n'a pas créé de maison de santé, nous, mais on a créé une maison des internes. Parce que il faut continuer à irriguer nos petits hôpitaux des étudiants en médecine, mmh, qui ont tendance à rester plutôt dans les CHU. Et c'est bien de les faire venir ici et puis de dire, bah, ils vont aimer travailler dans une petite ville à dimension humaine. Et puis quand ils seront médecins, et bah, ils vont visser leur plaque et ils vont venir s'installer à Joigny ou sur le territoire, à Saisy par exemple, et faire en sorte qu'on continue d'irriguer les futurs médecins libéraux à travers nos petits hôpitaux. Et notre maison des internes,
oui,
qui accueille
cette
huit internes, ça fonctionne bien. On joue à guichet fermé, il y a une liste d'attente, et on en est content.
Eh ben, écoutez, Bernard Morin, voilà, je ne sais pas tous les dossiers seront aussi enthousiastes pour le label Hôpital de proximité, mais je le soumets à Olivier Véran qui vous écoute. Hein. Olivier Véran, voilà, c'est précisément un hôpital qui peut répondre à ces critères pour être dans le concret.
En tous les cas, on va faire le siège du ministère pour l'avoir très rapidement, tout au moins le siège de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté.
Bon, merci beaucoup Bernard Morin.
Merci à vous, merci, Wendy.
Merci beaucoup. Merci Olivier Véran. L'idée, c'est bien de trouver, et Frédéric Valtoux ne pourra pas vous dire le contraire, un équilibre entre la proximité, la qualité, la sécurité des soins. C'est pour ça que vous serez très vigilant sur l'attribution de ces labels.
Bien sûr, mais voyez, Wendy Bouchard, la réaction de cet élu, l'appétence qu'il a, l'envie qu'il a d'avoir ce label hôpital de proximité montre bien que, un, il y a une attente très forte dans notre pays, et deux, les mesures qui sont proposées répondent aux attentes qui s'expriment. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est toujours très... Franchement, hein, comme élu, moi je suis enthousiaste quand j'entends des élus de territoire, des maires qui disent vite, on a envie d'avoir ça, on l'attendait depuis longtemps. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, vraiment.
Oui, c'est très bien. C'est vrai qu'il y en a qui s'inquiètent et qui disent sans chirurgie, sans maternité, c'est un peu un abus de langage, ça fait un peu dispensaire, il faut nous donner des gages. Mais
ceux qui s'inquiètent sont rarement ceux qui cherchent à bénéficier du dispositif.
Oui,
mais bon,
voilà.
C'est toujours comme ça, vous connaissez.
Mais vous
avez, mais vous aurez la qualité des soins, évidemment. Vous aurez la sécurité des soins, évidemment. Mm-hmm. Moi, j'ai porté plusieurs amendements depuis plusieurs années pour renforcer la sécurité des soins, pour faire en sorte que, par exemple, on ne puisse pas faire de chirurgie de cancer sur des plateaux techniques qui n'ont pas suffisamment d'expertise.
Bien sûr, et c'est
bien
pour ça
absolument
que, malheureusement,
pas de sacrifier la sécurité des soins.
Oui, c'est malheureusement pour ça qu'aussi un certain nombre de maternités ont été fermées, car il n'y a plus assez d'actes pour assurer cette sécurité.
Et juste une proposition pour rebondir sur ce que Frédéric Valtoux disait tout à l'heure, sur le fait que dans ces hôpitaux, dans ces petits hôpitaux, il ne serait pas inintéressant qu'il y ait des avis spécialisés qui soient donnés. Mais moi, j'ai une proposition. Vous avez ce qu'on appelle des médecins consultants. Les médecins consultants, souvent, ce sont les professeurs de médecine, les grands patrons des hôpitaux, qui souhaitent consulter au-delà de l'âge de la retraite. C'est-à-dire qu'ils demandent une prolongation de quelques années et ils peuvent faire des consultations dans leur établissement.
Très bien.
Moi, je propose que, si on les autorise à faire cela, ce qui est très bien, ils fassent une partie de cette activité dans des hôpitaux qui ne soient pas les gros hôpitaux-centres, mais qu'ils aillent justement dans ces hôpitaux de proximité, dans des hôpitaux généraux, pour apporter leur expertise et leur savoir, parce que c'est aussi un outil de formation et d'attractivité pour les jeunes.
Ouais. Voilà. Vous attrapez la balle au bon, Frédéric Valtoux.
Oui, mais c'est effectivement une idée. C'est vrai que ça sera utile, parce que de toute façon, on le disait au début, on ne va pas revenir dessus, mais il y a ce cap de cette dizaine d'années qui va être compliqué à gérer, et donc il va falloir se serrer les coudes. Juste sur la notion de dispensaire que vous évoquiez, ça renvoie à une époque où les technologies n'étaient pas les mêmes, et donc ces centres, ces hôpitaux de proximité, ça doit être aussi le lieu où on fait ce qu'on appelle de l'e-médecine, de la télémédecine, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser les nouvelles technologies, le numérique, les promesses que ça ouvre, pour pouvoir travailler aussi à distance. Bien sûr que le médecin, il doit voir son patient, mais il n'est pas pour le suivre, et notamment ceux qui sont, sont confrontés aux maladies chroniques, il n'y a pas toujours besoin d'aller voir son médecin pour être suivi. Et donc ces lieux de proximité, ces hôpitaux de proximité, ils doivent être aussi le lieu du développement des nouvelles technologies.
Comment nos hôpitaux se transforment? Je redonne la parole juste après la pause. Frédéric Valtoux, Olivier Véran et Maïté et Marie veulent réagir au 39-21.
Sur la transformation annoncée de nos hôpitaux, on retrouve Wendy Bouchard et ses invités. On a entendu le maire de Joigny dans l'Yonne, Bernard Morin. Nous sommes toujours en ligne avec Olivier Véran, qui est député La République En Marche de l'Isère. Il est neurologue et rapporteur général de la Commission des Affaires Sociales. Et en studio avec nous, Frédéric Valtoux, président de la Fédération Hospitalière de France. Il est maire de Fontainebleau, maire Les Républicains.
Et au cœur de ce projet de loi Santé, Ma Santé 2022, c'est une réalité. La pénurie de médecins, comment y faire face, notamment dans les 10 ans qui viennent. On reviendra sur la suppression du numerus clausus, qui était annoncé par Emmanuel Macron et qui sera donc opérante et effective. J'aimerais que vous nous parliez, messieurs, aussi des maisons pluridisciplinaires de santé, parce qu'on a les hôpitaux de proximité, les maisons de santé. Ça, c'est aussi très concret pour nos auditeurs. Frédéric Valtoux, on en trouve dans un certain nombre de communes aujourd'hui, hein, qui regroupent les spécialités. Le micro, s'il vous plaît. Voilà.
Il y en a beaucoup qui existent, effectivement, des maisons pluridisciplinaires de santé. Aujourd'hui, l'enjeu de côté médecine libérale, on a beaucoup parlé de l'hôpital. L'enjeu du côté médecine libérale, c'est l'injonction un peu d'Emmanuel Macron et du gouvernement de leur dire, c'est à vous de vous organiser aussi. Et donc, c'est la création de ces... Alors là, c'est un peu jargonneux. C'est de ces communautés professionnelles de territoire de santé, ce qui s'appelle les CPTS. Oui, oui, c'est affreux, mais c'est comme ça qu'ils les ont appelés. Il y avait peut-être à trouver plus simple. Mais en tous les cas, c'est l'idée de dire, on vous demande aussi de vous structurer, vous, médecins libéraux.
À l'initiative de qui alors ?
Entre vous, d'accord. Au niveau des bassins de vie ou au niveau des territoires de santé. Organisez-vous parce qu'on a besoin aussi d'interlocuteurs. La médecine publique a besoin aussi d'interlocuteurs organisés. Et puis, c'est aussi votre responsabilité. Ça, c'est le message subliminal qui leur est adressé. C'est aussi votre responsabilité de participer à ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire effectivement être en capacité d'accueillir la population, parfois à des heures qui ne sont pas celles classiques, des heures ouvrables, le week-end, un peu en début de soirée. Voilà.
C'est un système de garde. Hein,
et c'est pouvoir aussi arriver à mieux faire travailler ensemble autour de projets communs et la médecine publique et la médecine libérale, toujours dans cette idée de mutualisation des forces.
D'accord.
Et donc ça, c'est un enjeu de discussion actuellement entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins. Mais c'est intéressant aussi de rappeler à la médecine libérale qu'elle a aussi sa part de responsabilité concernant cette question de la prise en charge des Français et de leur santé.
Oui, il y a des maisons de santé pluridisciplinaires, beaucoup, hein, avec une trentaine de professionnels que sont allés visiter, c'était lundi, Édouard Philippe et Agnès Buzyn, pour prouver justement que ce modèle-là fonctionnait. Généraliste, interne, kiné, voilà, vous les trouvez parfois, il y a 4-5 spécialités.
Et ces maisons, elles permettent de faire travailler ensemble et des professionnels qui aujourd'hui ne veulent plus travailler tout seul dans leur coin. Enfin voilà, il n'y a plus un jeune médecin qui s'installe tout seul dans son cabinet, qui vit sa plaque et qui va voir à raison d'une demi-heure ou peut-être une heure.
Et quand vous dites, il n'y a plus, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, mais c'est un modèle qui est dépassé pour vous.
C'est plus le modèle qui attire les jeunes générations. Aujourd'hui, ils veulent travailler en équipe, ils veulent pouvoir échanger, ils veulent pouvoir effectivement et peut-être demain faire un temps aussi à l'hôpital en dehors de leur cabinet, etc. Donc c'est un exercice beaucoup plus diversifié. Et ces maisons pluridisciplinaires, c'est l'amorce déjà de cet état d'esprit nouveau, faire travailler en équipe.
Olivier Véran, c'est pour ça que vous voulez vous miser sur cet exercice collectif justement de la médecine, très clairement. Vous êtes neurologue, mais vous l'avez constaté pendant vos études aussi, c'est difficile de s'installer aujourd'hui seul, d'où les déserts médicaux aujourd'hui.
Oui, il y a encore quelques médecins qui souhaitent s'installer dans une petite commune en général, en cabinet isolé, heureusement ou non d'ailleurs, mais ce qu'on voit, c'est qu'à mesure que la désertification progresse, eh bien, le modèle du cabinet libéral avec les médecins tout seuls, qui assumait jusqu'ici une charge de travail monstrueuse, parfois avec plusieurs milliers de patients dans sa patientèle, est en train de laisser place à un exercice regroupé, c'est-à-dire que les médecins préfèrent s'installer dans des maisons avec des kinés, des infirmiers, des soignants, etc., qui sont dans le même territoire. Mais on est sorti du mythe du médecin par commune. Vous savez, c'était l'image du maire qui disait « je n'ai plus de médecin dans ma commune ». Aujourd'hui, on est plus dans une logique d'intercommunalité, c'est-à-dire ce qui importe, c'est la disponibilité et l'accessibilité davantage que l'hyperproximité. Et que si, au sein de 4 communes qui sont très proches les unes des autres, vous avez une maison médicale qui est accessible et qui permet de réduire les délais, d'améliorer la qualité des soins, c'est mieux pour les usagers. Donc c'est mieux pour les médecins, c'est mieux pour les usagers, c'est mieux pour les paramédicaux. Donc ça compte. C'est pour ça qu'on essaie d'encourager cet exercice et de l'accompagner. On parlait tout à l'heure de l'assistant médical qui permettra dans ces maisons de santé d'améliorer la rentabilité des soins en dégageant le médecin de certaines missions. Donc c'est vraiment le modèle qui a évolué très très vite depuis 10 ans en fait. Et les collectivités territoriales, les régions, départements, communes s'investissent beaucoup. On voit que ça pousse comme des champignons.
Olivier
Véran, on n'a pas toujours de médecin à mettre dedans.
Je vais vous faire réagir tout à l'heure, juste après la pause, sur les assistants médicaux. Cécile et Maïté veulent en parler l'une et l'autre. Et Hélène a 49 ans, elle nous écrit de Nevers, parce qu'on était en Bourgogne tout à l'heure. Les petits hôpitaux seront, dit-elle, des sous-hôpitaux à cause du manque de plateaux techniques. Moi, je suis en Bourgogne, mais ma majorité des interventions ont été faites à Paris. J'ai été opérée à Pompidou. Automatiquement, les petits hôpitaux seront pour les maladies bénignes. S'il n'y a pas de plateau technique, il n'y aura pas de service de qualité. Alors bon, en l'occurrence, c'est vrai, pour les services de pointe, il faudra pas choisir forcément l'hôpital de proximité. Hein.
Oui, bah c'est toujours le même sujet, c'est-à-dire mettre des hôpitaux, il faut être capable de mettre des médecins dedans. Or, aujourd'hui, la pénurie médicale fait qu'il faut être raisonnable. Peut-être que dans 20 ans, on reviendra parce qu'on aura formé beaucoup plus de médecins et on aura peut-être, on réouvrira des blocs chirurgicaux.
Oui,
peut-être, on ne peut pas le dire.
Oui.
Mais aujourd'hui, nécessité fait loi, peu de médecins, il faut bien être raisonnable.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Nous commentons jusqu'à 10h le projet de loi santé présenté hier en Conseil des ministres qui doit organiser la médecine de demain. Wendy Bouchard.
On a parlé des hôpitaux de proximité, des maisons pluridisciplinaires pour l'exercice collectif de cette santé, la nécessité de rapprocher la médecine libérale de la médecine publique et hospitalière pour faire face à la pénurie de médecins qui s'annonce. On poursuit ce débat avec Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France, qui est maire de Fontainebleau, avec Olivier Véran, rapporteur général de la Commission des affaires sociales, neurologue de formation et député La République En Marche de l'Isère, et avec nos auditrices, beaucoup de femmes qui nous appellent, hein, de Cécile à Marie. Je vais donner d'abord la parole à Maïté, je crois, oui c'est ça, Maïté, qui veut réagir sur ce que vous annonciez, la création des assistants médicaux, Olivier Véran. Donc ce sera une question pour vous, vous êtes en ligne l'un et l'autre et vous pouvez échanger sur ce sujet. On attend votre témoignage depuis Chartres. Bonjour Maïté.
Oui, bonjour. Oui, alors je vous ai appelé pour réagir justement au fait de la création de ces nouveaux emplois qui sont les assistants médicaux,
oui.
Pour signaler que nous, infirmières libérales, on est déjà sur le secteur, on est déjà en lien avec les médecins et on voit ces patients tous les jours.
Mm-hmm.
On prend leur tension en cas de changement de médicaments, pour des surveillances, on arrive, on ne se sent pas bien, on prend une tension, on n'est pas rémunéré pour le faire.
Oui.
Donc en gros, on veut créer de nouveaux emplois. Ils seront payés pour le faire, alors que nous, on est déjà là et on demande à travailler.
Avouons un paradoxe sur le sujet, Olivier Véran. Vous êtes en ligne et Maïté vous écoute.
Non, il n'y a pas de paradoxe. Enfin, je ne crois pas qu'il y ait un paradoxe. Et effectivement, il y a beaucoup de personnels, de professionnels de santé qui ne sont pas des professionnels médicaux et qui effectuent un grand nombre de tâches et de missions qui, au quotidien, au service des malades, sont des missions qui ont pu être déléguées ou qui sont des missions propres. Là, il s'agit vraiment de fixer un professionnel de santé dans une maison de santé pluridisciplinaire avec des missions précises et un financement particulier, puisque ce serait un financement plutôt forfaitaire par l'assurance maladie, c'est-à-dire un financement public, même si des choses restent à préciser. Dans le cadre du décret. Donc on est vraiment là, c'est pas une mise en concurrence. Vous savez, il y a hélas dans notre pays 400 000, je crois, professionnels infirmiers qui n'exercent pas le métier parce que les infirmiers et infirmières ne sont pas suffisamment payés dans notre pays par rapport à d'autres pays, par rapport à la lourdeur de leur mission et de leur tâche.
Alors justement, Olivier Véran, pourquoi ne pas les revaloriser à cet effet?
Ah mais c'est un sujet, mais moi j'y suis favorable, c'est un sujet qui est indépendant du sujet assistants médicaux. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer les deux. Il y a énormément de pays, en fait la plupart des pays occidentaux ont développé des professions qui travaillent en lien plus étroit avec d'autres professions de santé. D'ailleurs, on est l'un des seuls pays où, entre guillemets, à part quelques exceptions, entre le bac plus 3 et le bac plus 10, on n'a pas beaucoup de professions.
Oui, mais Maïté,
vous
avez du mal à entendre ce discours, Maïté ?
Bah oui, complètement, parce que du coup, on va encore creuser le trou de la sécurité sociale. Nous, on passe déjà chez le patient, tous les jours. On est là, on le voit. Les assistants médicaux, ils ne vont pas forcément le connaître parce qu'ils vont le voir une fois avant le passage du médecin. Ils vont savoir déceler si le patient est dans son état normal ou pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir... Oui, ils vont le faire de façon mécanique, mais ils ne connaissent pas le patient. Nous, on le connaît. Après, vous parlez des maisons de santé. J'en fais partie. Je fais partie d'une maison de santé. On est 23 professionnels entre Chartres et Dreux.
D'accord.
Donc... On couvre la porte des Yvelines, la vallée de l'Eure. On est déjà une grande maison de santé. À 8 km de notre maison de santé, il va y avoir une autre maison de santé qui va se créer. Là, ils ont eu les autorisations. C'est vraiment quelque chose de très proche. On est déjà 5 infirmiers. Il va y en avoir une sixième qui va arriver prochainement. Il y a un cabinet médical une cabine infirmière qui s'est installée à côté de chez nous. Qui a dû fermer parce que manque de patients, parce que vraiment, nous, on en a beaucoup et on se développe.
Bah oui,
et là, il y a une autre maison.
C'est étonnant, parce qu'on parle de carte hospitalière, c'est une drôle de politique d'installation. Olivier Véran, vous connaissez aussi cette problématique.
Oui, bah alors normalement il y a une cartographie hein, pour les maisons de santé, c'est-à-dire que tout ce qui va bénéficier d'un soutien public doit faire l'avis de bénéficier d'un avis positif de l'Agence régionale de santé. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir ça et là des initiatives locales, souvent par des élus locaux qui disent bah moi j'ai quand même envie d'avoir une structure plus proche de ma commune ou au sein de ma commune et donc je vais le développer. Pour ça que c'est toujours un exercice qui est délicat et pardon mais souvent la logique intercommunale, elle n'a pas forcément payé politiquement, c'est-à-dire que si vous voyez disparaître votre médecin mais qu'il a beau s'installer juste à côté dans de meilleures conditions, là, vous l'avez plus chez vous, donc ça peut être un peu compliqué. Peut-être que c'est cette situation, je ne connais pas le dossier. Mais encore une fois, madame qui est infirmière libérale et qui travaille en maison de santé pluridisciplinaire a des compétences supérieures aux compétences qui vont être demandées aux assistants médicaux. Et à moins qu'elle ait du temps disponible en plus des missions, à mon avis, très nombreuses qu'elle effectue dans ses journées au service de ses patients, je pense qu'elle peut aussi, bénéficier d'un renfort dans le cadre d'une activité regroupée comme la sienne, d'un assistant médical qui pourra effectuer certaines missions qui peut-être aujourd'hui lui prennent du temps et l'empêche d'avoir des activités de soins pour elle-même.
Bon.
Donc c'est voilà. Encore une fois, faut pas. On a souvent souffert d'un système qui est trop dur à réformer parce que rigide et parce que déclenchant souvent beaucoup de peur ou de réactions en chaîne dans le milieu des professions. J'ai ouvert tout à l'heure en vous disant qu'on avait énormément pris de retard dans la capacité des professionnels à travailler les uns avec les autres.
Bien sûr, non,
la
j'entends bien.
Un pays dans lequel tout le monde est d'accord pour coordonner les soins, mais du moment que c'est lui qui coordonne.
Mais j'entends Maïté, son témoignage, qui est une femme qui a envie de travailler, qui fait des actes qui ne sont pas rémunérés et qui se demande simplement pourquoi on va faire ces actes-là à des personnes qui sont rémunérées alors qu'elle le fait aujourd'hui bénévolement. C'est vrai que ça, pour moi, ça ressemblait à un paradoxe. Vous avez expliqué les choses, Olivier Véran, et je vous remercie. Frédéric Valtour, un petit mot avant la pause.
Oui, il y a un grand principe hein, qui structure notre système de santé, c'est la liberté d'installation. Et elle vaut pour tous les professionnels de santé.
Y compris quand la carte est stupidement réalisée.
Y compris, il y a encore des villes où on pourrait estimer qu'il y a trop de spécialistes par rapport à la population. Ouais. Il y a des villes hyper attractives en bord de mer où il y a beaucoup de soleil, ou parce que c'est des métropoles dynamiques, etc. Où effectivement, on se dit, mais pourquoi autant de médecins, autant de cardiologues, autant, etc. Mais il y a ce principe de libre installation qui traverse d'ailleurs le débat public, le débat politique. Hein. Il y a souvent à gauche, à droite, des gens qui disent mais est-ce qu'il ne faut pas revenir réguler un peu plus la liberté d'installation pour effectivement lutter contre les déserts médicaux?
Pour l'instant, la réponse est non.
Pour l'instant, la réponse est non. Mais c'est vrai que c'est un sujet. On a des endroits, paradoxalement, il y a une concentration de forces médicales au-delà des besoins et beaucoup d'endroits, et on les connaît, on en voit de plus en plus, ou au contraire, il y a pénurie.
Merci Maïté pour ce témoignage depuis Chartres au 39-21. Je donne la parole à Marie juste après la pause pour vous répondre, Olivier Véran, Frédéric Valtoux, encore ensemble jusqu'à 10h avec Julie.
Comment entrevoir la médecine et l'hôpital de demain? Encore quelques minutes pour en parler avec Wendy Bouchard et ses invités.
Et Marie, qui est au 39-21, voudrait réagir à la suppression du numerus clausus. Alors c'était une démarche et une réforme souhaitée par Emmanuel Macron. Ce sera en effet opérationnel. Olivier Véran, vous qui êtes neurologue et qui portez justement cette réforme, excusez-moi, je cherchais le terme. Je cherchais en fait le nombre de candidats aujourd'hui retenus par numerus clausus. C'est à peu près 8000 médecins par an, c'est ça?
Un peu plus. 8000, pas loin de 8500. Ouais.
Sur 60 000 candidats dans les écoles de médecine, numerus clausus, c'est le concours entre la première et la deuxième année. Hein. Ça fait,
c'est surtout un concours par QCM qui teste vos capacités à apprendre par cœur plein de choses, à les ressortir. Moi, je me souviens de QCM sur Aristote. Quoi. Ouais. On ne fait pas de la philosophie, l'histoire de la philo en QCM.
Et qui se solde par un grand gâchis humain, c'est ce que vous disiez. Hein.
Bah, c'est évidemment un gâchis humain, on brise plein de vocations. Enfin, je dirais même au-delà de l'intérêt numérique de supprimer le numerus clausus, parce qu'on sait que la ministre a annoncé qu'il y aurait une augmentation d'à peu près 20% du nombre de médecins formés.
Oui.
On va diversifier les moyens de former nos futurs médecins. On va aller les chercher dans les sciences humaines et sociales. On va aller les chercher dans les sciences fondamentales. On va pouvoir aller chercher des gens qui sont aptes dans qui présentent toutes les qualités d'éthique, d'empathie, etc., qui sont nécessaires pour devenir un bon médecin. On va sortir de la logique de bachotage et du concours couperet pour aller diversifier ces modes-là. C'est un truc dont on s'est toujours refusé à faire depuis plus de 50 ans.
Oui.
Et c'est dommage. Je ne dis pas que les médecins formés et sélectionnés aujourd'hui sont mauvais, hein, pas du tout. Mais enfin, c'est bien aussi de pouvoir diversifier un peu la médecine, de l'ouvrir sur autre chose. On en sortira tous gagnants.
Marie est avec nous, 39-21, et veut vous interroger sur le sujet. Bonjour Marie.
Bonjour. Merci de me recevoir à l'antenne et merci pour vos émissions qui sont toujours parfaites.
Eh ben, merci beaucoup Marie, ça me touche beaucoup. On vous écoute.
Une question très précise. Nous avons en ce moment, on vient de citer les chiffres, plusieurs milliers de jeunes gens qui ont 17 ans, 18 ans, qui ont passé leur bac avec mention et qui sont en train de préparer leur entrée en médecine.
Oui, oui.
Ils travaillent énormément, je les vois tous, mais énormément. Et le numerus clausus, il y a longtemps, je fais partie d'une famille médicale dont on en parle, mais pour le moment, il est toujours là, ce numerus clausus. Alors, que répondre à tous ces jeunes gens qui disent « Bon, alors cette année, je travaille encore pour arriver à entrer en première année de médecine ». Voir le film qui s'appelle « Première année » qui a été fait par un médecin.
Excellent.
De leur répondre, oui. « Oh ben vous abandonnez, c'est pas la peine, l'année prochaine, il n'y aura plus de numerus clausus. Oh ben écoutez, laissez courir. » Non, ça, je pense que ce n'est pas d'une bonne éthique.
Marie,
alors,
que fait-on pour répondre à Marie-Olivier Véran, pour tous ces jeunes qui travaillent fort?
Marie souligne le fait qu'il y a une réforme qui va se mettre en place l'année prochaine et que cette année, la réforme n'est pas encore en place. Donc vous avez aujourd'hui le système à l'ancienne de numerus clausus, c'est normal. Il faut donner un peu de temps aux universités pour qu'elles puissent justement diversifier les modalités d'intégration des jeunes à la médecine. Mmh. Et tout ça ne se fait pas en claquant des doigts en une semaine. Donc les jeunes qui veulent réussir en médecine et qui doivent s'inscrire dans le cadre du numerus clausus aujourd'hui, donc malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, doivent continuer de bachoter et de travailler entre guillemets à l'ancienne. Mais c'est la dernière année, où ça arrivera. Et surtout, c'est la dernière année, je l'espère, où on aura des jeunes qui auront beau avoir eu 14,5 sur 20 à un concours extrêmement sélectif et difficile, se verront recalés. Recalés, vous imaginez vous faire recaler avec 14,5 sur 20, c'est juste honteux. Donc c'est ça qui va changer. Donc il faut, évidemment, il y a des périodes transitoires. Vous savez, moi-même, j'ai connu la première année de ce qu'on appelait l'examen classant national, c'est-à-dire le concours de l'internat Noël Formule. J'ai essuyé les plâtres, ça arrive assez régulièrement parce qu'on change souvent les modalités de sélection et de formation de notre pays. Voilà, mais je pense aussi à tous ces jeunes qui ont échoué face au concours, ou qui ont voulu le contourner, qui sont partis se former en Roumanie, en Espagne, par un bataillon de centaines ou de milliers de jeunes qui reviendront dans quelques années et qui sont dépités de ne pas pouvoir avoir appris la médecine de leur pays.
Mais vous allez,
tout ça va changer.
Vous allez les venger, avec cette suppression. Merci Marie-Olivier Véran, merci pour votre expertise. Dernier mot de conclusion avec vous, Frédéric Valtoux.
Oui, juste un mot sur cette affaire du numerus clausus. Il fallait le faire, il y a un consensus, ça va être fait bientôt, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on ne change pas l'attractivité des carrières médicales, on risque de ne pas changer beaucoup la donne. Il y a un paradoxe français qu'on ne souligne pas assez. On ne manque pas de médecins aujourd'hui en France. Il n'y a jamais eu autant de médecins inscrits à l'ordre national des médecins. Donc le nombre de médecins, il y a plus de 250 000 médecins. Donc on n'en manque pas,
mais on manque
de médecins qui soignent. On manque de médecins qui pratiquent ce pour quoi ils ont été formés. Parce que beaucoup, soit parce que l'exercice est difficile à l'hôpital et que ça use, soit parce que l'exercice en libéral, comme on l'a évoqué dans l'émission, n'attire plus classiquement, se sont détournés de ça. Et donc on a un système aujourd'hui, c'est un peu, quand on parle de la crise du système de santé, elle est là aussi, on a un système qui a désespéré ceux qui pourtant doivent le servir. Souvent c'est ça, donc ça fonctionne encore, il y a encore beaucoup de volonté dans les hôpitaux au service de la médecine, mais il y a quand même beaucoup de médecins qui ne sont plus là. Et donc, pour les faire revenir, c'est pas en formant plus. Si on n'offre pas des carrières plus attractives, on aura toujours ce problème de ces professionnels qui se détournent de leur métier.
Voilà, pour le mot de la fin, en attendant cette opération séduction pour ces filières médicales. Merci Frédéric Valtoux, président de la Fédération hospitalière de France. Laisse rejoindre vos administrés, tous les habitants de Fontainebleau qu'on salue ce matin sur Europe 1. Merci.
Merci beaucoup.
À bientôt. Et on se retrouve en ce jour de Saint-Valentin pour explorer les coups de foudre dans l'histoire depuis Ramsès II. Ça nous amène bien loin, ma chère Julie.
On a des témoignages,
forcément.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.